Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
On va passer un petit peu aux quelques questions. Je vous signale, bon, il y a une petite table où vous avez des éléments d'information sur les enseignements diplomatiques, mais vous avez aussi une liste, une possibilité de laisser votre nom et votre adresse mail si vous souhaitez que nous envoyions les informations des rencontres que l'on fait. Et j'ai pu obtenir quelques livres aussi, quelques exemplaires. Il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, il y en a trois sur la table, qui sont le dernier ouvrage qu'avait rédigé Evelyne Pieyer, qui s'intitule « Mousquetaires et misérables », qui fait allusion, bien sûr, à Hugo et à Dumas. Et je dois dire que j'ai eu l'occasion de le lire et c'est assez délicieux de resituer ces deux personnages dans la grande histoire de ce 19e siècle qui a été quand même, du point de vue historique, assez bouleversé. Bon, voilà, alors il y a donc des prises de parole, oui, j'arrive.
Merci. Très rapidement, j'ai l'impression, en écoutant tout le monde, et vu un peu mon passé récent, qu'on est tous des orphelins de Jacques Ralite et des états généraux de la culture qui resteraient à peut-être à refonder et à peut-être à repenser aussi. Mais ça, c'est difficile, ça suppose beaucoup de volonté, d'organisation, de réunions, et puis de pouvoir déboucher sur quelque chose de beaucoup plus construit, pensé et efficace. Parce que le danger que je partage tout à fait par rapport à ce qui a été dit, je connais bien l'Argentine, donc je suis revenu il n'y a pas longtemps, Milei, on regarde du côté du Chili, le Chili où en 73, avant que les gens soient parqués dans les stades, il y avait des stades et des manifestations poétiques, avec les poésies de Pablo Neruda, avec la foule qui arrivait, etc. Donc le besoin de l'art, le besoin de communier, le besoin de s'élever avec tout ça. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir, il y a quelques dizaines d'années, enfin, on peut parler, puisqu'on est à Toulouse, de René Gouzen, qui à la fois faisait des cours de théâtre à la Fac du Mirail et collaborait à des œuvres qui, moi, personnellement, m'ont marqué. Métis ou le théâtre du retournement, inspiré du livre de retournement de Bertolt Brecht, d'autres manifestations à Avignon, etc. Enfin, je veux dire qu'on était une génération avec une possibilité et des possibilités et un besoin, et alors avec des échanges, parce qu'évidemment, ça ne faisait pas l'unanimité, etc. Le terme de théâtre bourgeois, je m'en rappelle, mais c'était pas propre au théâtre, c'était un peu pour tout, la musique commerciale, etc., tout ça, tout ce qui ne participait pas à un élan qu'on sentait poindre et nécessaire pour une alternance ou pour un changement politique global, c'était suspecté d'être effectivement des trucs qui n'étaient pas faits pour nous. Enfin, je parle de nous, d'un collectif qui était évidemment de cette mouvance-là. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Faut pas oublier, on parlait de moyens, les moyens, effectivement, avec les besoins d'équilibrage financier dans toutes les structures, ça c'est évidemment très important, mais dans les équilibrages des budgets municipaux et des collectivités locales, avec la saignée fantastique de cette dernière année, fait que, par exemple, ici à Toulouse, mais je pense que c'est partout pareil, il y a des bibliothèques qui ont fermé ou qui ont licencié des gens, et donc des économies, évidemment, qui ne gênent personne. Mais je me rappelle, il y a 10 ou 15 ans, c'était pareil avec dans les maisons des jeunes et la culture. Qu'est-ce qui sautait en premier? Ben, c'était le fric qui allait pour faire de l'assistance scolaire, etc. Donc tous les problèmes de l'éducation nationale, etc., cette culture, si on néglige cet aspect-là à la racine, c'est-à-dire dans les premiers pas de l'éducation, ben, ça se reproduit après et on aboutit à effectuer des périodes et des moments où tout à fait on est en droit de se poser la question qui était soulevée du changement global de comportement, peut-être de mutation, avec des spectacles qui sont des spectacles de masse. La question du fric, de l'argent d'un billet de théâtre ou d'opéra, c'est tout à fait comparable, et c'est même souvent en dessous de n'importe quel concert qu'on a dans un zénith avec des productions qui sont bon, qu'on peut partager ou non, adhérer ou pas, mais enfin, il y a des phénomènes de masse dopés, droppés par, effectivement, comme le disait Evelyne, ces chiffres-là. C'est un ami qui publiait, là, il avait retenu que les meilleurs artistes, les meilleurs, ceux qui avaient fait le plus de chiffres, en tout cas en termes d'écoute, c'était Jules et Jim. Alors, Jules et Jim, ça fait drôle, mais enfin, c'est quand même ça. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtriez pas, bon, ben moi, j'ai eu la... Ça arrive, comme de temps en temps, je vais sur la côte est, du côté du Barcarès, où il y a le festival des Déferlantes. Ben, je suis toujours un peu ahuri de voir quelques dizaines de milliers de personnes installées en plein cagnard pendant toute une après-midi, pour après gesticuler en rythme sur des textes qu'on ne comprend pas, enfin, et connaissant d'ailleurs tout ça par cœur. Donc il y a quand même des changements, voilà. Mais moi, je suis certainement un boomer nostalgique. Mais voilà, en gros, je pense que vraiment, il faudrait que une des sources, ou en tout cas, de la même façon, avec un changement d'échelle qu'il y a dans les circuits de grande distribution, dans les petits villages, dans les petites villes, dans les campagnes, il y a des centres de distribution ou de vente de produits locaux, des circuits courts, etc. Il y a des choses comme ça à faire au niveau culturel, certainement, avec un éclairage nouveau et avec aussi cette dimension communale, puisqu'on est dans les élections en ce moment, qui est prépondérante pour pouvoir favoriser ce genre de regroupement, d'initiatives et d'élargir. Il y a en Espagne, en ce moment, des communes, et pas des petites, qui ont une structure, je dirais presque communautaire, en tout cas une sorte de mise en commun et un droit de regard et de sur la fabrication, sinon industrielle, en tout cas matérielle, agricole, et également sur le plan culturel, des échanges qui sont extrêmement féconds et qui sont nécessaires. Voilà, merci.
Moi, je voulais réagir à la déclaration que vous avez faite, qui m'a un peu choqué, sur quand vous dites que le théâtre ne doit pas changer par rapport au public et au type de public qui viennent ou qui ne viennent pas dans les salles. Je trouve que ça fait un petit peu une posture qui est, pour le coup, une posture élitiste, mais élitiste même vis-à-vis de ceux qui n'ont pas la culture ou qui n'ont pas, justement, on va dire, les codes de ce type d'art. Et moi, je viens beaucoup du rap et du hip-hop, par exemple, et c'est le type de discours que j'ai l'habitude d'entendre pour décrire ma musique et pour dire qu'il y a des arts qui se vaudraient ou qui ne se vaudraient pas, quand vous parlez, par exemple, de la danse de country ou d'arts qui sont plus populaires. Et à ce moment-là, s'il y a des arts qui ne touchent ou ne touchent plus la population, est-ce que ce n'est pas simplement une modification des arts qui sont consommés, qui sont utilisés et qui touchent les gens ? Est-ce que ce n'est pas simplement nous... l'art auquel on est habitué, par exemple, qui disparaîtrait, est-ce que c'est mal en soi ? Et à ce moment-là, si on considère que ces arts-là, ils ont une forme qualitative qui est importante et qui doit être préservée, qu'est-ce que vous, en tant que directeur de salle, justement, ou en tant qu'artiste, vous pouvez faire pour faire en sorte que cet art soit accessible ? Parce que j'ai pu amener à des amis qui sont des néophytes totales, par exemple, que j'ai pu amener au théâtre, dans certaines pièces, et ils en ont pleuré, tout comme vous, qui avez l'habitude d'y aller tous les jours. Donc l'accès, donc la question, elle n'est pas forcément non plus de l'éducation, mais elle est de qu'est-ce qui donne envie d'aller dans ces salles-là. Et donc vous, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça ? Voilà, j'espère que ce n'était pas trop confus.
Je suis pas sûr d'avoir entendu que l'art ne devait pas changer ou le théâtre ne devrait pas changer. Aurélien disait que l'art, il n'y avait pas de notion de progrès dans l'art, enfin dans sa manière de le concevoir, mais dans le sens où rien de nouveau sous le soleil. Il s'agit toujours d'émettre un ressenti, un affect par rapport au monde, par rapport à une des représentations qu'on s'en fait, et de le mettre en partage. Voilà, je crois avoir saisi ça dans le. Et par ailleurs, qu'est-ce qui peut amener les gens dans les salles ? On parlait tout simplement de politique tarifaire, en fait. Enfin, les tarifs à l'Utopia sont ridiculement petits par rapport à ceux de Pathé-Gaumont, où on est presque à plus de 20 euros la place en plein tarif. Et quelquefois, après mes représentations, il y a des bords de scène. Et une fois, en Alsace, un jeune homme prend la parole et il me dit, mais pardon, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce que j'ai payé que 5 euros pour voir ce spectacle. Parce que vu comment je l'ai pris dans la tronche, vu comment j'ai ri, vu comment ça me parle encore, j'aurais été prêt à mettre 25 balles. Qu'est-ce qui fait que la place est à 5 euros ? Et donc, j'ai dû lui expliquer que bah, moi, j'y étais pour rien. Moi, le spectacle avait été acheté et que c'est la direction, c'est la programmation qui a décidé de mettre un tarif spécifique pour que les gens se disent « Bon, bah voilà, je mets 5 balles. » Vous vous rendez compte où on en est ? « Allez, je mets 5 balles, je vais prendre le risque. Des fois que j'en ai pas pour mon argent. Hein ?» On revient à des vieux réflexes comme ça, de l'ordre du commerce. Est-ce que je vais en avoir pour mon argent ? Ces politiques tarifaires, elles sont. C'est parce que c'était un théâtre public, subventionné, elles pouvaient prendre le risque de donner l'accès au public pour très peu cher, pour pas qu'il ait l'impression de trop puiser dans sa besace, alors que par ailleurs. Peuvent très bien s'acheter une pinte de bière à 9 euros.
Sur le... Oui, je pense... il y a peut-être eu un malentendu sur ce que vous avez compris au début. Alors, sur la question de l'élitisme, vous venez du rap et du hip-hop, je ne parle pas en spécialiste parce que je suis un vieux con qui ne connaît pas bien. En revanche, ce qui s'est passé avec les années langues, dont on pourrait dire beaucoup de bien et beaucoup de mal, c'est précisément... Alors ça, c'était la question de la... C'était les débuts de la démocratie culturelle que je poserais, je ne suis pas le premier, à la démocratisation, c'est-à-dire que les grandes œuvres soient accessibles à tout le monde. La question de l'accès du droit au chef-d'œuvre, comme disait Malraux, avec cette idée qu'on est d'accord que Mozart, Shakespeare voilà, il y en a trop, effectivement, produisent des chefs-d'œuvre. La différence, la démocratie culturelle qui aboutit dernièrement même à l'idée de droit culturel, qui est au fond une espèce de multiculturalisme individuel, mais moi, je n'ai aucun problème avec ça. Les années langues ont prétendu ouvrir non pas une démocratisation, c'est-à-dire pas l'accès de tous aux mêmes choses, qu'il y ait des prolétaires dans les théâtres bourgeois, par exemple. Ça, c'est la démocratisation. Parce que ce serait moins cher ou parce qu'on éduquerait les enfants à l'école. Mais de prendre en compte les différentes formes de créativité. Et alors là, pour le coup, alors moi, je connais pas bien, mais le rap et le hip-hop ont bénéficié de l'attention d'État, de politique d'État. Ce qui, à mon avis, leur a nui. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans les années langues à des listes de plus en plus larges, d'ailleurs. On a voulu multiplier ce qu'on appelle les arts légitimes. Et ça, moi, je suis absolument pour. Sauf que ce n'est pas à l'État de le dire. La question, c'est que quelle est la différence entre l'opéra et le hip-hop ? C'est que l'opéra, on a comme opéra national, comme institution publique, on a une vocation patrimoniale qui fait que, comme au théâtre, notre répertoire se nourrit de 4 siècles. On fait des opéras du début du XVIIe siècle et on fait, plus rarement, on en fait des créations d'opéra. La saison dernière, un opéra a été créé. Mais nous avons une vocation patrimoniale, c'est-à-dire de faire vivre, et on rejoint la question de l'universalisme et ce que disait aussi Aurélien, l'idée qu'à un certain moment, dans un opéra du XVIIe siècle, les gens ils vont pleurer comme devant une série à la télé. Tout d'un coup, il y a un truc où la distance se réduit. L'opéra est fait pour ça. L'opéra a été un art extrêmement populaire, avec simplement de grandes différences spatiales de prix, et qu'on trouve encore aujourd'hui. Pour 5 euros, vous pouvez voir un opéra. mais vous voyez la moitié de la scène et vous êtes debout. Bon, ça c'est parce que les opéras, les théâtres à l'italienne, le théâtre du Capitole, il est du 18e siècle, il faudrait tout raser. Bon. Donc la question patrimoniale, c'est qu'il y a étonnamment, il y a une vulnérabilité, une fragilité, pas simplement parce que ça n'intéresse plus personne, comme dirait Chalamet, mais parce que les codes, c'est ce que vous disiez, ça demande du temps. Ça demande du temps et en même temps, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et d'ailleurs, contrairement, je ne sais pas, prendre un exemple très interne à la musique classique, le public de musique de chambre qui va aller écouter l'intégrale des quatuors de Beethoven sont généralement beaucoup plus intello que les publics d'opéra. L'opéra a cette chose populaire. Et il y a des gens qui réagissent à l'opéra vraiment avec une immédiateté liée à une histoire, de belles images et une musique. Voilà. Donc il y a une vulnérabilité du patrimoine, de cette vocation patrimoniale, qui fait que chaque jour, alors que nous parlons de spectacle vivant, nous avons à gérer la survivance, au pire et au mieux, l'universalité d'œuvres qui ont 1, 2, 3, 4 siècles. C'est en ce sens que les politiques publiques, de la même manière qu'on ne va pas raser les monuments, enfin c'est arrivé, mais on ne va pas raser les monuments antiques et on ne va pas brûler les réserves du Louvre. Cette question de préservation, de préserver vivant, hein, de pas brûler les livres, de pas brûler les partitions, de pas les laisser enfermer, que les livres s'ouvrent, que les partitions s'ouvrent et que ces musiques soient faites, c'est une vocation patrimoniale des politiques publiques. La question du rap et du hip-hop, et c'est ça qui est fabuleux, c'est l'incroyable vitalité créatrice que le rap et le hip-hop ont représenté, représentent peut-être encore, mais ça, ce serait à vous de le dire, moi je ne peux pas en juger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose, hein, une espèce de ligne de fuite comme ça, une espèce de transversal fait qu'une expression poétique, musicale, rythmique, une nouvelle manière de s'exprimer va naître de manière relativement spontané, précisément en marge des arts légitimes. Le problème de ce qu'a fait Lang, c'est qu'il a commencé à faire cette liste-là, hein, de ces pôles de créativité qui devaient être préservés. Mais la question, on n'a pas, peut-être aujourd'hui, mais à ses débuts, on n'avait pas à préserver le rap. On avait à le laisser exploser, c'est-à-dire à avoir... L'opéra n'a plus cette charge explosive, hein, cette charge d'expressivité du contemporain, par définition. Et même les opéras contemporains ont beaucoup de mal à dire le contemporain, à dire qui nous sommes aujourd'hui. Elles nous permettent de nous dire sur la durée, de nous dire comme type humain, effectivement, nous aimons, nous avons peur de mourir depuis la nuit des temps. L'invention d'une forme, et en littérature c'est pareil, l'invention d'une forme, elle est la marque, et c'est ce que j'ai toujours admiré dans le rap et dans le hip-hop, elle est la marque d'une incroyable vitalité des individus et des groupes. À partir du moment où ça va rentrer dans les politiques publiques, vous êtes sûr d'en faire quelque chose de patrimonial. Et aujourd'hui, et contredisez-moi parce que je ne m'y connais pas très bien, le rap est déjà rentré, outre dans sa phase commerciale, comme toute chose, le rap est rentré comme une espèce d'objet muséal du contemporain. Et il est traité par les politiques publiques comme ça. Et généralement, du côté non pas des politiques culturelles, mais des politiques sociales. C'est-à-dire, en gros, la paix des quartiers. C'est de ça que ça parle. Et ça, c'est une très grande perversion des politiques publiques. Donc le danger que courent des émergences, des arts émergents, comme à l'époque le rap et le hip-hop, ce n'est pas d'être méprisé par l'élite, c'est d'être ramené à de la légitimité, qui est le meilleur moyen pour l'assassiner. Voilà. L'opéra, c'est beaucoup trop tard. L'opéra, ça fait 4 siècles qu'il n'est pas subversif. Bon, voilà, on fait autrement, on fait autre chose. Il y a des œuvres subversives qui, de temps en temps, tout d'un coup, voilà, parce que c'est aussi une histoire agitée. Le théâtre a cette subvertivité-là, je sais pas, pouvoir de subversion très grand. À partir du moment où quelque chose émerge, il faut toujours regarder comment les politiques publiques viennent le capter. Voilà. Et c'est ce que je regrette. Et d'ailleurs, je pense que la muséification par les politiques publiques, Lanck qui dit oh, le rap, c'est l'expression de notre jeunesse contemporaine, etc., et son symétrique du rap commercial qui véhicule des valeurs d'abord artistiquement, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, et qui véhicule des valeurs problématiques. Ce sont les en miroir, hein, la musification d'État et le business autour, enfin, l'économie, le commerce du rap sont en miroir ce qui guette l'émergence. Vous dites, je viens du rap, vous êtes jeune, vous parlez des arts légitimes, etc. On est déjà dans le processus de patrimonialisation.
Sur le rap, c'est pas forcément le sujet maintenant, mais je suis pas sûr que, en tout cas, la muséification et la commercialisation soient à mettre en parallèle, parce que les artistes indépendants, justement, qui provoquent d'autres types de rap, ont souvent bénéficié de l'argent public, des MJC ou de ce type de choses, ce qui n'est pas forcément l'inverse. Et après, moi, ma question, et vous y avez répondu justement un petit peu, était un petit peu, en étant provoquant, si ces arts-là, le théâtre, l'opéra, que j'aime profondément, n'attirent plus, alors pourquoi les défendre? Et donc, vous répondez par la patrimonialisation et cette histoire qu'il faut justement défendre. Et je le comprends tout à fait. Et ma question après était justement comment attirer, c'est plus clair parce que vous répondez par les codes et par l'éducation. Moi, je ne suis pas sûr que les codes et l'éducation soient ce qui empêche d'apprécier une œuvre. Peut-être pour certaines choses, en effet, moi, par exemple, j'ai encore du mal à apprécier l'opéra, alors que j'en ai consommé pas mal. Mais il y a des choses qui touchent profondément l'humain, en tout cas, c'était plutôt ma question, comment amener de nouvelles personnes vers ça? Après, peut-être c'est un travail qui est trop compliqué qu'on ne va pas répondre maintenant autour d'une table.
Très très rapidement sur comment on amène les gens. Enfin, tout à l'heure, tu parlais des tarifs, hein. Mais les tarifs, c'est juste, il faut pas que ce soit un frein. C'est pour ça que les tarifs sont bas. C'est pas, ça s'arrête vraiment là. Par contre, comment on amène les gens? Alors, moi, je peux juste parler moi de mon boulot de programmateur. C'est en étant nous curieux en permanence et en arrivant à faire en sorte. Enfin, je sais pas comment dire. À créer une confiance en fait avec les gens qui, à un moment. Le grand bonheur, c'est quand des personnes se pointent au cinéma, pas pour voir un film, mais pour voir ce qu'il y a à voir. Et à partir de ce moment-là, si nous, on a été assez malins pour aller voir partout, en fait, moi, je passe ma vie à voir des films qu'on m'envoie, mais je passe aussi une grosse partie de ma vie au Pathé Wilson ou à UGC, pour voir des films qui sont supposément pas pour nous. Films commerciaux, des films, mais qui peuvent paradoxalement me parler, qui peuvent moi me donner des envies de programmation et de me dire que justement je peux aussi, enfin voilà, c'est rester curieux et si rester curieux et nouer une relation de confiance, c'est un truc un peu nébuleux, mais ça existe pour de vrai quoi. Et ça oui, ça permet d'amener des gens. D'arriver à faire en sorte, en tout cas pour le cinéma, arriver à faire en sorte que des films qui théoriquement ne sont pas rentables ou n'ont pas de public, eh ben, de faire mentir ce truc-là et de leur trouver un public. Et voilà, de faire mentir. C'est un jeu, quoi.
Même audio ? Une mémoire sonore ?
Je voulais commencer par une jolie histoire, après je risque de finir un peu avec de l'acidité. La jolie histoire, elle s'est passée samedi après-midi pour moi à Utopia à Bordeaux-Rouge, puisque j'ai eu la chance d'assister à une représentation, à un film, pardon, qui était Ciné-Palestine, c'était hier soir à la fin, et c'était donc Ciné-Palestine, avec le metteur en scène qui était présent, il y a eu un bord de scène après, mais ça a commencé par 9 jeunes amateurs au Lido, à Toulouse, qui avaient fait 4 séances à 8, avec une jeune fille née à Gaza, qui est à Toulouse, qui n'était pas circassienne au départ, mais qui était avec eux. Et ils avaient vu le film avant, ils ont travaillé dans des ateliers, et ils ont restitué leur ressenti sur une séquence de 10 minutes à peu près, dans un endroit qui n'est pas une scène de spectacle, donc qui passait dans les travées aussi ou autre, et que j'ai trouvé assez remarquable. Et là-dedans, moi, je trouve que c'est carton plein, complet, entre éducation populaire, un film avec les retours aussi du metteur en scène et des jeunes aussi un petit peu, et on n'est pas loin des droits culturels qui, je sais, ne vous déplaisent, enfin, je pense, que vous n'arrivez pas à comprendre et qui me paraissent pas la solution miracle, mais quand même extrêmement intéressant à essayer de légitimer aussi. D'ailleurs, c'est dans la loi, donc ça devrait pouvoir se faire. Mais après, je pourrais continuer, il va falloir m'arrêter peut-être en cours de route, on verra, sur plusieurs choses que j'ai entendues. Alors moi, j'ai un certain nombre d'années derrière moi sur la culture à Toulouse, d'ailleurs, et je pense que, autant dans les années 70, un ministre de la Culture avait accusé les gauchos de la presse 68 d'arriver en tant que cultureux avec la CEBI et le cocktail Molotov, je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup oublié le cocktail Molotov et qu'ils sont beaucoup plus courtisans et pas assez courageux pour défendre effectivement les droits des intermittents, qui n'est pas un statut, défendre des gens qui se font couper complètement les subventions, comme à Toulouse en ce moment, que ce soit des centres culturels, que ce soit des MJC, que ce soit des équipes, et que là je vais peut-être m'arrêter, mais j'ai hésité à venir entre la campagne qui s'est terminée à Toulouse et venir sur ce débat, et merci, je suis bien content d'être là. Je voudrais faire une remarque sur les campings. Je voudrais dire que la CCAS, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est de l'éducation populaire là aussi, qui s'adressait à des ouvriers qui venaient en vacances à des endroits, qui est menée depuis 40 ans au moins, peut-être 50, pendant que les ouvriers, ça ne se dit plus, hein, que les salariés sont dans des campings, c'était plus ou moins avec la CGT derrière, hein, de toute manière, et à mener des œuvres exigeante, extrêmement exigeante. J'étais chargé de DIF, je vous garantis que pour arriver à y accéder, c'était extrêmement, et ça reste aujourd'hui extrêmement difficile et extrêmement ambitieux. Donc effectivement, il y a des choses à faire dans les campings. J'ai entendu que on ne sait jamais ce que c'est une salle à l'opéra. Question naïve au départ, hein, pas méchante là. Mais que je sache, normalement, les abonnements, encore et à Toulouse, se font d'une année sur l'autre, où je suis prioritaire pour retrouver mon siège au même endroit chaque année. Vous me répondrez tout à l'heure, merci déjà. Donc c'est pas toujours, c'est quand même des gens qui sont déjà venus, et tant mieux, les 9 dixièmes, et qui reviennent là. Alors moi, je pourrais être très... Il y a un machin qui s'appelle « Mieux produire, mieux diffuser » qu'a sorti le ministère il y a 3 ans déjà, qui normalement a donné de l'argent au réseau institutionnalisé dont vous parliez aussi tout à l'heure, mais aussi à l'Opéra de Montpellier et à l'Opéra de Toulouse. C'est 90 000 euros chaque année à l'un et à l'autre pour qu'ils se parlent. Et là, je pense que ça ne va pas assez vite. J'y vais un peu à la hache. Hein. Mais si je regarde Angers et Nantes qui se sont mariés il y a déjà 20 ans à la louche, et qui sont en train de se marier avec Rennes, ça serait intéressant de réfléchir à des moments donnés à des coûts de production qui baissent, à de la mutualisation. Je sais que c'est difficile, hein, ça paraît un peu facile que j'essaye de parler un peu arrogant comme ça, mais je pense quand même qu'il y a d'énormes progrès à faire, parce que maintenant on se retrouve quand même sur des élections qui ont lieu là à Toulouse et ailleurs en France, avec à un moment donné, vous nous parlez du patrimonial, ok. D'autant plus que ça a été refait à Toulouse, tout ce qui n'est pas opéra, c'est quand même, ça a été construit dans le quartier culturel à côté de la machine, et vous avez un superbe équipement, tant mieux. Mais comment, il y a un moment donné, les politiques ont le droit de faire des choix, qu'ils soient du RN, et ils le font, ou qu'ils soient ailleurs, et comment ils vont le faire, et le patrimonial ne sera pas suffisant tout le temps. Il va falloir quand même redonner, vous parliez tout à l'heure du hip-hop, que je sache, les ceux qui s'entraînaient au hip-hop à Lyon, sous la maison de la danse, parce qu'il y avait un abri de la pluie, depuis 20-30 ans, ils ont pris des directions de CDC, le centre de la danse, ils sont légitimés avec toute l'ambiguïté, j'étais d'accord avec vous sur l'ambiguïté, parce que moi je les connais dans les arts du cirque, donc là, ça sera un point sur lequel on pourrait se rejoindre. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, l'État généraux, je ne sais pas, vous avez lu les programmes culturels à Toulouse, je crois que les deux listes de gauche le proposent, ça peut être très mal géré, de la période de Ralite, ça peut être des endroits où on va dans le mur aussi, il y a des états généreux qui peuvent se faire, mais c'est pas ça, je ne vais pas faire le malin avec ça, je me souviens de Madame Belloubet ici, qui avait mené à l'époque de Cohen les états généraux de la culture. Après, elle a mal tourné, mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, il faut que les gens se parlent. Il faut reconstruire chacun sa chapelle, comme il était nommé tout à l'heure, essayer de s'ouvrir aux arts voisins, et surtout que les publics, à travers aussi les droits culturels, reviennent à un moment donné, soient concernés aussi dans les quartiers et autres. Il y a des quartiers bourgeois, il y a des quartiers plus populaires, avec toutes les guillemets qu'il faut mettre derrière ces choses-là. On le voit d'ailleurs dans les élections. Hein, là. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, je voudrais dire encore, moi j'ai été très déçu du milieu culturel à travers les gilets jaunes et à travers les manifs sur les retraites. Il y en avait, je ne vais pas dire le contraire, mais c'était une ultra minorité. À un moment donné, il faut qu'ils fassent attention à ce que justement après, quand ils ont leurs vrais problèmes qui arrivent, qu'il n'y ait pas des gens suffisamment qui les soutiennent.
Oui, ce serait très bien. Bon, je pense que ce sera la dernière intervention, mais ce serait bien que vous rebondissiez un petit peu sur celle-ci, qui était très vaste.
Oui, oui.
Voilà, donc,
Alors, je répondrai sur quelques points. D'abord, je ne voudrais pas qu'on reste sur un malentendu. Les droits culturels ne sont pas pour me déplaire. C'est simplement que vous avez entendu que j'ai associé ça à la question du multiculturalisme et je voulais en réalité parler de relativisme culturel. Je suis, d'un point de vue philosophique, un relativiste culturel. Voilà. Ce qui me pose beaucoup de problèmes avec la question de l'universalité, dont comme philosophe je viens aussi. Donc j'ai aucun problème avec la question des droits culturels, qui devrait être une partie intégrante des réflexions anthropologiques et écologiques d'aujourd'hui, au sens d'écologie sociale. Sur les abonnements, je peux pas développer. Alors évidemment les inerties sont très grandes, hein, vous parliez de temps, vous savez que chaque saison, sans rentrer dans les détails maintenant c'est pas très intéressant, mais chaque saison nous assouplissons et freinons les abonnements. Il y a eu une réunion avec les abonnés il y a 2 jours avec notre direction, ils ont été hués de notre direction par les abonnés qui disaient « mais moi, ça fait 40 ans, ma grand-mère venait déjà, etc. » Donc ça se fait dans la douleur. Alors notre direction est assez calme en disant « ça leur passera, il y a un moment où il faut changer les choses. Hein. » Il y a une époque, les loges étaient des privilèges à vie qu'on se passait. Voilà. Donc les choses, la question de l'abonnement, surtout avec, on a une petite jauge et on a énormément de public, la question des prérogatives des abonnés qui font aussi vivre la chose, hein, elle est très très compliquée parce qu'on ne veut pas se retrouver dans la situation où les abonnés remplissent la moitié des dates et que les gens se retrouvent à ne plus pouvoir réserver ensuite. Ça c'est traité, c'est long. La question des moyens de production, la question des réunions d'opéra, je pense que les réalités géographiques et institutionnelles sont très différentes dans chaque région pour mille raisons. Je ne suis pas absolument certain qu'une réunion Toulouse-Montpellier soit souhaitable, mais ça, à titre personnel, je ne réponds pas pour l'institution. En revanche, la question des moyens de production est au cœur des réflexions des directions d'opéra aujourd'hui et des directions techniques. Les coproductions, nous développons beaucoup les coproductions. Nous avons par ailleurs de véritables laboratoires de recherche sur la durabilité, sur la vertu, hein, des productions d'opéra. Et par ailleurs, et je voudrais juste finir là-dessus, sur la question des productions, nous sommes financement public à 77%. Nous avons 1% de mécénat. Nous avons 22% de recettes propres, ce qui veut dire que les subventions financent le fonctionnement, qui est énorme. Hein, c'est 400 permanents, et évidemment tout le reste. Ce que nous rapportent les recettes que nous générons payent la production artistique. C'est-à-dire que, alors évidemment, un théâtre, ça n'est pas que le spectacle, mais les billets payent les spectacles. Ce qui me semble la chose la plus équilibrée et la plus raisonnable que nous puissions faire. Encore une fois, chaque maison d'opéra a des histoires, hein, et des structures extrêmement différentes. Celles de Montpellier et Toulouse sont très très différentes. Et nous sommes assez loin, en fait. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle Occitanie que nous parlons des mêmes réalités géographiques et culturelles. Voilà. Je réponds sur ces petits points sur l'ensemble. Je suis en réalité plutôt d'accord avec vous.
Ouais. Moi, je réagis par rapport à la CCAS. Merci d'avoir rappelé qu'on n'a pas attendu Rachida Dati pour qu'il y ait une exigence culturel dans ces lieux de camping, et comme si les campeurs étaient incapables et de bouquiner et de faire eux-mêmes des choix de musicaux ou de spectacles, quoi. Donc là, je crois que le brouillage des cartes, c'est que elle pensait à de l'animation culturelle, et je fais la différence. Moi, je suis pas un animateur culturel, je tente d'être un artiste, et voilà, c'est pas facile. Et autre chose sur laquelle je voulais ricocher, c'est le mieux produire, mieux diffuser. Oui, méga directive ministérielle, donc voilà, qui doit donner la direction et lâcher ce truc comme ça. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire simplement qu'il fallait attacher un tout petit peu plus de temps au montage des productions, pour mutualiser justement les moyens des coproductions. C'est-à-dire qu'on ne demandait pas de supporter à une seule structure le coût de la création. Et plutôt que d'avoir trois fois 1000 euros, chacun abonde une espèce d'enveloppe et les acteurs sur les territoires abondent ces enveloppes et les redistribuent. Voilà ce qu'ils entendaient par mieux produire. Donc mieux produire, c'était accéder à une meilleure diffusion, puisqu'en général, ceux qui ont déjà mis de l'argent accueillent les spectacles. Mais là où il y a eu tout un pan d'impensé sur ce mieux produire, mieux diffuser, c'est justement la question de la diffusion et comment une compagnie... au jour d'aujourd'hui, moi à Toulouse, je peux essayer de rationaliser une tournée d'un spectacle. Parce qu'on me demande aussi de gérer des critères écologiques à présent. Hein ? J'y suis sensible. Ça m'agace terriblement de faire un aller-retour Mulhouse-Toulouse, repartir en Bretagne pour ensuite rejouer à Dijon. Et que ce soit la tectonique des plaques, au moment où on s'attache tous à regarder les plannings et à dire « Ah non, mais là, c'est pas possible, je peux pas faire ça ici parce que c'est un temps fort que je veux demain. » Voilà. Et dès qu'on met les contraintes en jeu, en perspective, c'est possiblement des dates qui peuvent sauter. Donc le mieux produire, mieux diffuser, voilà, c'est un beau slogan, mais on attend encore aussi des aides, et pas que des aides financières, hein, des aides pour structurer tout ça. Et par ailleurs, donc c'est un adage ministériel, mais ce mieux produire, mieux diffuser, il a quand même été largement, on fait appel à un autre opérateur que la DRAC pour mettre tout ça en place. Hein, des opérateurs privés, je pense à Occitanie en Seine, à des choses comme ça. Donc on sous-traite, voilà, le ministère sous-traite son adage, Et on n'y est pas encore, hein, au mieux produire, au mieux diffuser.
Evelyne, un dernier mot peut-être ? Un mot de conclusion, allez.
Ah, c'est pas évident du tout. Là, peut-être, si sur la question de l'élitisme, je pense que c'est quelque chose d'assez important de postuler que des œuvres, ça peut s'adresser à n'importe qui, quel que soit le niveau de diplôme. Moi, j'ai vu des choses assez étonnantes, étonnantes, disons, inattendues par rapport à ce qu'on nous raconte. Par exemple, un Roméo et Juliette, tout à fait en entier, hein, le texte vraiment de Shakespeare, et plein de jeunes gens dans la salle, des jeunes gens banlieue, vraiment, et qui suivaient avec une passion splendide et tout à fait justifiée. Moi, quand je parle d'élitisme, c'est ça. Ce n'est pas tellement le côté pour tous. Évidemment qu'il faut quand même cette base, là vraiment d'éducation première, qui peut manquer, qui peut gêner pour l'accès à certaines œuvres, mais ça gêne normalement, ça gêne plutôt avant que pendant, quoi. C'est-à-dire où on va se dire qu'on n'est pas prêt à voir ça, on a un peu peur peut-être de voir ça, etc. Ou qu'on attend quelque chose de soi, en dessous de ce qu'on peut produire. Mais je suis vraiment intimement persuadée que si on n'est pas dans... si on n'attend pas d'être productif en soi-même, quoi, par rapport à une œuvre, si on accepte de pas tout comprendre et que c'est pas gênant, qu'on va comprendre ce qu'on a à comprendre, ça le fait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire que les détenteurs des codes et du savoir ont tendance à d'une part à être extrêmement condescendants à l'encontre de publics supposés être moins éduqués. Je trouve que c'est vraiment de la vraie condescendance. Je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et d'autre part, on ne dit pas assez de façon globale qu'on a le droit, d'une part, de rester hermétique, d'autre part, d'avoir des trous, enfin, de moments où, non, franchement, quoi, il ne se passe rien. Bah oui, il ne se passe rien. Bah, c'est comme ça. Hein. Pareil pour les livres, on a le droit de sauter. Souvent, les gens disent ça. Enfin, j'ai été assez longtemps conservateur. Donc le côté... Hein. Ah ouais, non, attends. Par exemple, chez Hugo, les descriptions. Bah, si c'est pas le moment pour... Tu les sautes, les descriptions. C'est pas grave. On est cadré dans un registre utilitaire. Hein, globalement, par rapport à l'esthétique. Donc, la description qui ne sert absolument à rien, ne sert pas à faire avancer l'histoire, on peut trouver que c'est long. Eh ben, on saute. Et puis, peut-être qu'un jour, on y reviendra. C'est une notion d'élitisme qui est un peu... qui demandait à être spécifiée. Mais, en tout cas, qui s'inscrit de façon extrêmement virulente contre toute condescendance. C'est-à-dire contre... Bah ouais, mais enfin bon, quand même, quoi, il vaut peut-être mieux leur proposer ça. Non, ça c'est pas possible. Et je suis d'accord d'ailleurs pour le camping. Le théâtre dans le camping, c'est juste les conditions quand même de représentation. C'est-à-dire que moi je suis pour. De toute façon, il y a eu plein de choses qui sont faites en animation comme ça, de déplacements, de rencontres. C'est pas nouveau. Hein. C'était juste un peu provo le côté camping. Demander à la Comédie Française de venir jouer dans les campings. Mais bon, pourquoi pas? Mais il faut quand même qu'il y ait des endroits, c'est-à-dire que ça ne se fait pas au rabais. Il faut quand même que ça puisse se penser. Quoi. C'est-à-dire comme autrefois, on pensait les chapiteaux, le théâtre était ambulant, ça se pensait. Quoi. Je ne sais pas si c'est une fin, une conclusion, en tout cas, c'est une ouverture sur la suite.
Alors, bon, je dirais juste un mot. Là. J'ai eu la chance de voir à Paris, une quinzaine de jours, une pièce qui s'appelle Hamlet. Alors, Hamlet, c'est l'histoire d'un jeune adolescent dont le père est décédé et la maman s'est remariée dans moins de 2 mois et qui fait une crise très, très forte vis-à-vis de sa mère. Et en fait, ce jeune est en train de travailler la pièce d'Hamlet avec des amis. Et donc, en fait, il y a des citations du texte de Shakespeare tout le long de la pièce. Et c'est essentiellement, et c'est Shakespeare. Et c'est Shakespeare avec ce personnage-là. C'est remarquable. Alors, c'est un acteur tout seul sur la scène, comme le fait Grégory, et qui joue tous les personnages de Hamlet. C'est impressionnant. Et à la fin du spectacle, il faisait un appel un petit peu au public pour qu'on le soutienne, pour qu'il puisse aller présenter son spectacle à Avignon cet été, parce que c'est vraiment... Mais pour les Parisiens ou ceux qui ont un passage, je la recommande, cette pièce. Voilà. Je rajoute ça parce que c'était à la fois quelque chose qui était très populaire et très élitiste. Parce qu'il y avait les deux. Quoi. C'est pas élitiste du tout, c'était du texte de Shakespeare, mais tout à fait contemporain. C'était tout à fait passionnant. Quoi. Je remercie d'abord et surtout nos intervenants qui sont chacun avec son expérience différente a apporté des témoignages qui étaient, je pense, tout à fait intéressants. C'était bien l'idée de la rencontre, je pense, que Dominique ne me contredirait pas. C'est des regards croisés. Voilà, chacun a donné un petit peu des regards croisés avec, bien évidemment, son vécu et son expérience et professionnelle et personnelle. Merci.
Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.